La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. De retour dans la Midinale de Piquet du 14 novembre 2022 pour la deuxième partie qu'on va continuer à appeler « S'informer autrement ». Et d'ailleurs, pourquoi « S'informer autrement », j'aime bien la faire. Ça, c'est quand vous vous informez par Radio Piquet, c'est autrement. Et on va revenir, assez longuement, je pense, sur ce qui s'est passé sur la journée de grève qui a eu lieu jeudi 10 novembre. Donc c'était une journée à l'appel de quand même plusieurs syndicats, même s'il en manquait à l'appel, comme EFO, je crois. Enfin, en tout cas, en local, EFO manquait. Et donc, il y a eu deux moments, enfin même trois moments jeudi à Brest, quoi. Donc on va se concentrer un peu sur Brest, on va revenir sur les événements de Brest, on va faire du local. Ça avait commencé, c'est le matin, des lycéens du lycée Iroise qui avaient appelé au blocage du lycée. Alors dès 7h moins le quart du mat, ils sont motivés les jeunes. Donc ils ont mis en place des petites barricades devant les portes, parce qu'on s'est déplacé les voir quand même. Ils ont mis des barricades devant les portes du lycée. Et ça s'est très bien passé, hein. Ils n'ont pas été embêtés, à part par les flics au départ qui leur ont dit « Ah ça y est, vous allez encore brûler des poubelles ». Bon, évidemment, hein. À Brest, il se passe exactement la même chose qu'à Nanterre, par exemple. Bref, ils étaient une bonne quarantaine réunis devant le lycée. Ils ont tenu leur blocage jusqu'à 9h30, 10h, où après ils allaient se diriger vers la plus grosse cité scolaire de Brest, vers Kerichen, pour essayer de porter ce mouvement auprès d'autres lycéens. Et ensuite, ils ont été rejoindre les universitaires pour ensuite rejoindre la manif. Alors nous, on s'est déplacés à l'Iroise de bonne heure pour leur demander pourquoi ils faisaient ça quand même. Moi, je voulais savoir quelles étaient les revendications de ces lycéens et ces lycéennes. Alors je m'excuse auprès d'eux et d'elles, au passage, surtout d'elles, parce que j'avais fait deux enregistrements et malheureusement, j'ai pas démarré le deuxième enregistrement. J'avais eu des bonnes conversations avec elles. Et je viendrai les réinterviewer au prochain blocage, j'en suis désolé. Donc on n'aura qu'un lycéen du coup qui va prendre la parole, qui fait partie de... c'est l'ULF, c'est l'Union lycéenne du Finistère. Et donc c'était à l'appel de l'ULF ce blocage. Et on va écouter un peu pourquoi les lycéennes et les lycéens ont voulu faire ce blocage en début de ce journée 10 novembre.
Alors on se trouve devant le lycée Iroise ce matin à Brest. Et apparemment il y a un blocage du lycée, quoi. Et vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que vous revendiquez et puis qu'est-ce que vous comptez faire par la suite.
On se mobilise pour notre avenir, hein, principalement parce que c'est un peu la merde, on voit pas plus loin que la fin du lycée, parce qu'après il y a les études, mais ce qu'il y a c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui survivent avec 100 balles pendant les études, donc on a pas envie de vivre ça, c'est pour ça qu'on se mobilise aussi. Et sur un plus long terme, il y a notre avenir avec le climat.
Ouais.
Parce que Macron, il y en a absolument rien à foutre. Je crois hier, ils ont annoncé que la prochaine COP, la COP28, serait à Dubaï. Donc c'est un peu l'aberration. Même là, en Égypte, on sait qu'il ne va rien se passer derrière. C'est des choses qui nous touchent et qui vont nous affecter dans les prochaines années, alors qu'on sait très bien que... c'est la merde, quoi.
Et donc vis-à-vis du lycée, là, parce que là aujourd'hui c'est une journée de mobilisation nationale, quoi, de grève. Donc, j'imagine que vous avez profité du moment pour dire nous aussi on va faire quelque chose, on va se montrer Et est-ce que vis-à-vis de ça, sur le côté social et, ou le travail plus tard, est-ce que comment vous le voyez vous?
Bah alors ce qu'on voit, on voit surtout sur les études, nos revendications surtout sur les études, parce que on est en général aussi et du coup c'est plus sur des études longues, mais le monde du travail c'est pareil, enfin c'est les revalorisations de salaire qui sont demandées par les autres syndicats, on les demande aussi parce que c'est encore un peu flou pour nous le monde du travail, mais on sait qu'on va y arriver et que...
Puis avant il y aura peut-être aussi l'histoire des minima sociaux c'est pour ça. Les jeunes avant d'arriver
avec
au travail,
RSA,
parce
qu'il
va
le RSA
financer les études.
Voilà, c'est ça. Bah, si on a des parents riches, on peut faire autant d'études qu'on veut. Et si on n'a pas, bah, on paye. Parce qu'en plus, les études vont devenir payantes. Pour payer les études, il y en a beaucoup qui travaillent, alors qu'on sait que bah, la première cause d'échec des études, c'est le travail étudiant. Voilà.
Et revenons au lycée, sur les réformes qui ont été mises en place il n'y a pas si longtemps que ça, sur ce qui est Parcoursup, sur les spécialités, tout ça, t'en penses quoi toi?
Bah en fait ce qu'il y a c'est que les spécialités ça a une bonne façade. Ouais. Les spécialités c'est pas mal parce qu'on peut choisir un peu ce qu'on veut. Ce qu'il y a c'est que la vérité c'est que dire que la filière scientifique un peu des élites a disparu c'est totalement faux. Les gens qui prennent pas maths ils sont encore condamnés à faire certaines choses. Et puis pareil, ça c'est pas forcément la réforme Blanquer, mais c'est depuis très longtemps. C'est la disparition des professeurs. On a de moins en moins de professeurs,
de plus en moins d'AESH. En classe, quoi,
C'est ça. Et alors qu'on sait très bien que c'est inefficace d'être beaucoup en classe. On l'a vu pendant le Covid, quand on était là une semaine sur deux, que c'était beaucoup mieux des classes à 15, pour les professeurs, pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour. Une embauche massive de profs, d'AESH, parce qu'il y en a besoin et il y a des personnes en situation de handicap qui ont besoin de quelqu'un qui l'ont que 3 heures par semaine. Et c'est pas normal.
T'as raison. Moi, en tant qu'ancien prof, hein, j'ai plus soit à fond que préférerais des classes à 15 que des classes à 35, ça c'est sûr. Ouais, sinon, pour la journée d'aujourd'hui, c'est quoi le programme?
Bah là, après, on va descendre vers Kerichen.
Ouais. Le passer but, c'est d'essayer d'aller recruter un peu là-bas ou...
Ouais, bah de passer, de montrer qu'on est là aussi, parce que Kerichen, c'est quand même la plus grande cité scolaire de Brest. Ouais. Et puis, c'est sur le chemin. Et après, on va à l'UBO. Ouais. Donc, peut-être qu'il y aura les jeunes de l'Union Pirate, ils ne nous ont pas répondu, mais on...
Non, ils seront là.
Voilà, c'est ça. Et puis, on les rejoint et on va à Lib. Okay. En cortège étudiant.
Pour faire la journée.
Voilà.
Bon, je te remercie.
Il y a pas de
bonne manif à vous.
Voilà. Bon, les jeunes étaient très motivés quand même ce matin. Ils sont très agréables. Et ça fait du bien de retrouver des lycéens aussi sur les mouvements, quoi, que ça se relance. Quoi. On va voir à quel point ça va prendre à Brest. De ce qu'ils me disaient en off, hein, ou sur l'enregistrement raté de ma part, c'est quand même assez compliqué. Quoi. On a discuté aussi des injonctions des parents. Hein. Le matin, tu vois, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de camarades qui avaient pu faire le premier blocage. C'était le deuxième là, qu'ils faisaient. Et que les parents n'étaient pas d'accord, quoi. Donc, y en a, ils ont la pression parentale aussi pour ne pas pouvoir s'exprimer librement sur leurs conditions lycéennes, quoi. Mais bon, ça, c'est partie de la difficulté de...
Rébellez-vous contre vos parents.
Alors, pas le mien, s'il te plaît.
Non, mais bon, les parents, c'est important, mais il faut qu'ils se fassent leurs propres opinions.
Il y a un autre mouvement aussi hein, autour des lycées professionnels en France là, qui est en train d'essayer de se développer. Hein. Il y a eu notamment énormément de mobilisation à Paris parce qu'il y a le projet de la région et donc de Pécresse de fermer 7 lycées professionnels sur Paris. Et les enseignants et les élèves se mobilisent autour d'un projet de réforme du lycée des lycées professionnels. Donc la réforme, c'est une énième réforme qui s'attaque au lycée pro, après les réformes Blanquer qui ont réduit l'enseignement général à peau de chagrin. Là, l'idée, c'est de doubler le temps de stage des lycéens dans les entreprises, donc ce qui permet de faire en même temps, d'énormes réductions de postes, de redéployer le personnel, etc.
Mmh. Et puis ça donne de la bonne chair à travail aux entreprises en plus. Quoi.
C'est ça, et de soumettre des mineurs de plus en plus aux entreprises. Quoi. Mmh. Donc il y a ça. Et autrement, autour de, du ministère de l'Éducation, il y a des choses très inquiétantes. Là, en ce moment, il y a, les, il y a la circulaire de Pape Ndiaye, là, qui veut renvoyer de plus en plus les lycéens et surtout les lycéennes qui contreviendraient aux principes de la République et de la laïcité en conseil de discipline. Donc, il y avait déjà les annonces hein, de tout ce qui est référencé comme atteinte à la laïcité qui était tombée à la rentrée là avec un chiffre qui est excessivement important et maintenant c'est ils ont décidé de mettre ça en place tous les mois donc ils font la traque à la moindre petite atteinte à la laïcité dans les écoles et du coup ça gonfle les chiffres de manière tout à fait importante. Et en parallèle à ça, on a Pape Ndiaye là qui a fait de la com hein, sur Twitter. Alors il a lancé il y a peu de temps la Minute Pape, qui est un exercice de com assez ridicule. Hein. Il s'est d'ailleurs fait tomber dessus par l'extrême droite, hein, parce que bon, de toute façon l'extrême droite ne peut pas supporter Pape Ndiaye.
Et un ministre noir, faut pas déconner. Donc,
voilà, je crois que ça se limite à ça. Mais en plus, cet idiot. Dans sa Minute Pape, a fait une citation de Jules Ferry, où il citait Jules Ferry qui se plaisait à contempler sa montre à heure dite en se disant que à cette heure-ci, tous les écoliers de France faisaient la même dictée, etc. Bon, il s'avère qu'il s'est fait choper parce que c'est absolument pas Luc Ferry qui faisait ça, mais c'était un précédent ministre. En plus, qui n'était pas au moment où on n'était pas sous le régime de la République. Donc évidemment, il s'est fait tomber dessus à ce propos-là. Mais le problème, c'était surtout le fond de son argumentation. Il argumentait donc à partir de Jules Ferry sur la décentralisation de l'éducation, tout en pointant une citation qui centralisait énormément les choses. Et c'est parfaitement incohérent, quoi. Bon, et puis sur la question de Jules Ferry et de la République et de la laïcité, il faudrait peut-être un peu arrêter. Hein. Jules Ferry, c'est avant tout le ministre de la Troisième République pro-colonisation. C'est en 1870 le maire de Paris qui fait fusiller les communards. Et il faudrait peut-être un peu arrêter avec ce personnage.
Ce serait pas mal. Mais c'est pas grave, il a essayé de se donner des bons points, Pape, récemment, et il remet les maths. J'adore ce sujet sur les maths au lycée. On les enlève, on les remet comment ? Fout le bordel. Voilà. Petit, d'ailleurs, ouais, si vous n'avez pas appris, donc ils vont remettre les maths, donc rien à voir, hein, ils vont remettre les maths en première et en terminale, hein, dans le tronc commun. Donc ça faisait plus partie du tronc commun, il y avait des spécialités. En juin, l'année dernière, ils avaient annoncé qu'ils rajoutaient une option maths, parce que ça commençait à être problématique. Et puis là, maintenant, on va remettre ça dans le tronc commun, à raison d'une heure et demie de maths par semaine. Et à savoir que donc vous devez déjà choisir trois spécialités en première. Ceux qui auront pris la spécialité maths, de ce que j'ai compris, eux feront une heure et demie de cours en moins que ceux qui n'auront pas pris la spécialité maths. Parce qu'en fait, ceux qui auront déjà pris l'aspect maths ne sont pas obligés de prendre ce truc en commun. Enfin, j'ai pas trop suivi. Mais apparemment, ceux qui n'auraient pas pris de maths du tout feront une heure et demie de cours de plus que les autres, quoi. Bon, alors après, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce programme de maths. Hein. En une heure et demie par semaine, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On verra, quoi.
La logique.
Mais bon, on voit bien que ça brasse, ça tricote, ça détricote, on refait. C'est de l'expérience pure, enfin c'est n'importe quoi. Ils vont réussir à tout péter, ils vont y arriver, quoi.
Bah, y a un dicton qui dit, hein, faire et défaire, c'est travailler.
Ouais. Bon, parlons de travail, revenons à... ou de grève, revenons à ce qui s'est passé donc jeudi à Brest. Donc tout d'abord, c'était donc les lycéens hein, qui avaient allumé la première flamme, on va dire, de la journée. Et ensuite, il y a eu donc l'appel à la manifestation à 11h à Place Liberté. Donc une manifestation appelée par l'intersyndicale sur laquelle on était présente. Et sans nous vous le rappeler, on va profiter des prises de parole de ce jour, qui étaient un peu plus nombreuses que d'habitude, on va dire. Et bah, on va écouter un peu ce qui est réclamé, et puis on en reparle un peu après. Hein.
Ouais, il y a plus de prises de parole, mais moins de monde. C'est dommage.
Ouais, il y avait un peu moins de monde, effectivement. Bah oui, mais en même temps, t'as, localement, t'as EFO qui, début novembre, envoie un premier courrier pour appeler à cette journée de grève. Et puis, curieusement, une semaine après, on reçoit un deuxième courrier qui dit qu'en fait, on en a marre des grèves saute-moutons organisées par la CGT. Donc déjà, ils s'en prennent à la CGT, ouvertement. Et donc on en a marre de ces grèves saute-moutons, on voudrait se désolidariser de la CGT, et comme il y a la réforme des retraites qui va arriver, on va garder nos forces, donc on appelle plus à une mobilisation au sein des entreprises. Bon, on a quand même mis un préavis de grève pour ceux qu'on aurait besoin, mais en gros gardons nos forces contre la réforme des retraites, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de syndiqués, ou j'ai pas vu de drapeau EFO en tout cas dans le cortège jeudi. Bon, bref, c'est pas grave. Il y avait d'autres. Enfin, c'est pas grave, c'est gênant.
Ça fait des forces en moins, c'est tout. Ouais, c'est voilà. Pareil.
Bon, il y avait d'autres syndicats. Ben, on va écouter les prises de parole et puis on se retrouve après.
Cette initiative finistérienne, mais aussi au niveau local et au niveau national, mais en tout cas au niveau du Finistère, elle est à l'appel. Une intersyndicale qui s'est installée et qu'on espère qui va durer dans le temps, justement pour permettre la mobilisation du plus grand nombre. Cette intersyndicale regroupe les associations, enfin les organisations syndicales, la CGT, Solidaire, la FSU, les organisations de jeunesse, l'Union Pirate, l'UNF, l'Union Lycéenne Finistérienne, et le Massico, qui est aussi un syndicat d'étudiants d'art, et également la CNT. C'est-à-dire qu'on est sur une large organisation syndicale, une large unité, et on essaie bien, on va faire en sorte qu'elle dure pour pouvoir mobiliser le plus largement possible. Depuis des mois, en effet, face à l'inflation galopante, les travailleurs et les travailleuses de tous les secteurs professionnels se mobilisent pour obtenir des augmentations générales, et pas des prix, mais des augmentations générales de salaire. Le gouvernement ne répond aux urgences sociales et à la montée des inégalités que par des mesurettes inefficaces. À l'image de la loi sur le pouvoir d'achat, il poursuit même ses projets de régression sociale en matière de droit au chômage et de report de l'âge de départ à la retraite.
Les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat sont en dessous de la situation de paupérisation de la population. La loi votée cet été se contente de poser quelques rustines et, à travers les exonérations de cotisations, ampute les recettes des caisses de la sécurité sociale, ce qui va encore fragiliser la protection sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice est en deçà de l'urgence à relever immédiatement l'ensemble des rémunérations de 10% au moins pour préserver les conditions de vie de toutes. De même, pour les retraités, les 4% de la revalorisation des pensions ne correspondent pas à l'inflation. Leur situation continue donc de se dégrader. La crise énergétique pèse déjà fortement sur la population, particulièrement les plus précaires, tandis qu'aucune mesure réelle n'est prise pour une transition écologique juste. Le gouvernement se contente d'incitations à des économies d'énergie culpabilisantes, tandis que d'autres pays européens mettent en place des passes ferroviaires gratuits. Pendant ce temps-là, les entreprises du secteur énergétique engrangent des super-profits. Le gouvernement poursuit aussi une politique fiscale qui assèche les comptes de l'État au profit des grandes entreprises et au détriment des services publics, santé, éducation, et du financement de la transformation écologique. Dans le même temps, les entreprises touchent de plus en plus d'aides publiques. Leur montant est estimé à plus de 157 milliards d'euros cette année. Les grandes entreprises, à l'image de Total Energy, versent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires.
Par ailleurs, le gouvernement prévoit une réforme de l'assurance chômage qui va à l'encontre du droit des travailleurs et travailleuses à la possibilité d'avoir des indemnisations chômage justes. Une réforme du RSA qui le conditionnerait à une obligation de travailler de 15 à 20 heures hebdomadaires et continue d'envisager une réforme des retraites qui exigerait de travailler davantage et pourrait conduire à amputer encore le montant des pensions. En ce qui concerne les jeunes et leurs familles, les aides comme les bourses et les ARS ne sont pas suffisantes pour compenser l'inflation. Leur niveau trop bas maintient notamment les étudiantes sous le seuil de pauvreté, 1 113 € par mois, même à l'échelon le plus élevé qui est de 574 €. Ainsi, la moitié des étudiants et étudiantes doivent travailler et il arrive à la même proportion de sauter des repas pour des raisons financières. Un revenu d'autonomie est indispensable pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Une revalorisation significative des bourses scolaires et de l'ARS est nécessaire pour pallier au coût de la rentrée, qui avec l'inflation a grimpé de 5 à 10% et pour permettre aux étudiants et étudiantes et leurs familles de vivre décemment. Trop peu de familles bénéficient de cette aide en raison du plafond de ressources à ne pas dépasser.
Il faut augmenter les salaires et pas l'âge de départ à la retraite. 2,1 millions de travailleurs vivent avec moins de 1 102 € par mois. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat, le Ségur de la santé ou l'augmentation de 3,5% du point d'indice après 10 années de gel n'ont pas réglé les problèmes. La hausse générale des salaires, c'est plus de cotisations pour la sécurité sociale. C'est donc des moyens supplémentaires pour soigner et éduquer les enfants, être protégés en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle ou de handicap. C'est aussi mieux vivre et vieillir à la retraite. Face au projet de réforme des retraites injuste et rejeté par la majorité de la population, nos syndicats portent des propositions alternatives finançables avec une autre répartition des richesses. Malgré les répressions syndicales, les travailleurs et travailleuses engagés dans le mouvement social restent déterminés. Beaucoup de secteurs obtiennent d'ailleurs de belles avancées salariales grâce à ce rapport de force. Seule la mobilisation par la grève reconductible dans les entreprises ou les services obligeront les employeurs, mais aussi l'État, à ouvrir de vraies négociations. Le combat continue.
Eh oui, le combat ne doit pas s'arrêter, quoi. Bon, au moins, dans cette prise de parole, on a eu un peu tous les sujets, là. C'était un peu mieux que d'habitude, moi, j'ai trouvé, parce qu'on entend que ça parle de minima sociaux, de chômage, de RSA, de... voilà. Et voilà, FO, j'ai envie de faire un petit pic à FO supplémentaire. On entend bien que, là aussi, la CGT appelle à des grèves reconductibles. Ils disent bien que c'est le seul moyen par lequel on peut faire un peu mal au patron, quoi. Et...
Bah, en vrai, le vrai moyen, ce serait une grève générale complète. Mais
oui,
actuellement, il n'y a pas les forces en place pour le faire, ni les motivations. On voit bien que les gens... Enfin, globalement, de toute manière, les gens sont inquiets de leur situation. Donc, il y en a qui calculent tellement tout à la virgule près qu'ils ne se voient pas déjà de se passer d'une journée de salaire due à la grève.
Bah ouais, c'est compliqué.
Donc, c'est compliqué de mobiliser aussi dans cet état d'esprit actuel, quoi.
Mais d'ici janvier, où ça va être pire, on va prendre les 15% du gaz dans la tronche, où il n'y aura plus les aides sur le gasoil, enfin l'essence, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, à force, quoi.
À part renverser la table, il n'y a rien à faire, hein, de toute façon.
Non, ouais, malheureusement. Puis alors. Le truc, c'est qu'on, oui, les manifestations, c'est une chose, quoi, mais est-ce que, quel impact ça a et quelle utilité, quoi, comment on peut faire? Parce que bon, il y a eu donc cette première manifestation sur Brest qui s'est déclenchée après, hein, y a eu un cortège qui a déambulé à l'appel de la Terre syndicale. Et à la fin de cette première manifestation, il y a un deuxième cortège qui s'est fait, qui est reparti en déambulation. Dans la ville de Brest, hein, pour continuer les revendications. Donc un deuxième cortège, plutôt alors, sans les syndicats officiels, même si on va voir par la suite que moins la CGT soutient ce qui s'est passé derrière. Donc en fait, il y a un deuxième cortège de 40 personnes à peu près, quoi, qui sont parties, qui ont repris un autre trajet. Et ça ne s'est pas bien passé. Ça s'est vraiment pas bien passé.
Ça s'est très mal fini.
C'est des choses qu'on n'avait jamais vues à Brest. Je veux dire, des manifs que certains qualifieraient de sauvages, en tout cas, on va dire de manifs non déclarés, mais en tout cas pas de manifs interdites, puisque le préfet n'avait pas émis d'interdiction de manifester pour cette journée. Donc la manif n'était pas interdite, c'est juste une manif non déclarée. Mais il me semble que maintenant, tu ne peux plus être puni pour une manif non déclarée. Donc voilà. Donc les gens sont repartis en cortège. Pendant la déambulation, il y a eu un premier accro, on va dire, avec une voiture qui a voulu forcer le passage à travers le cortège. Donc ça s'est un peu gueulé dessus. Et déjà la première surprise, bon évidemment, hein, les voitures de flics ou la BAC suivent à peu près toujours ces cortèges qui ne sont pas déclarés, mais... à peu près de loin, ils surveillent, ils laissent faire. Enfin, ça a toujours été à peu près comme ça sur Brest. Et là, déjà, la grande surprise, quand il y a eu cette altercation avec cet automobiliste, les flics sont arrivés de partout, quoi. s'est retrouvé avec déjà moins 5-6 fourgons, véhicules, et les flics descendent, matraque télescopique déployée, gazeuse à la main, et pas pour s'en prendre après l'automobiliste qui venait quasiment taper dans les jambes d'un manifestant, quoi. Enfin, d'une manifestante, entre autres. Non, ils se sont mis tout de suite entre le cortège et cet automobiliste. Première prise d'identité au sein des manifestantes. Mais, tout en gueulant, ouais, de toute façon, là, vous êtes en manif illégale, vous n'avez rien à faire là. Bon, ok, d'accord, t'es gentil. Les manifestants reprennent leur déambulation. Et à partir de ce premier accro, quand même, on a constaté que la présence policière autour de ce deuxième cortège était particulièrement importante et beaucoup plus que d'habitude. Voilà, donc la manifestation continue. Arrive aux marches là en bas du château, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent Brest. Et là, à ce moment-là, les manifestants décident de mettre un terme à leur manif, rangent leur banderole et repartent vers Liberté, vers la mairie, en restant groupés, bien sûr, mais plus en bloquant, plus en gênant, on va dire, parce que voilà, attention. Sans perturber la circulation, puis de toute façon. Voilà, on arrive rue de Siam. La seule circulation qu'il y a normalement rue de Siam à Brest, c'est les tramways. Donc, les manifestants remontent par cette rue de Siam, mais sur les trottoirs. Pourquoi ? Pourquoi ils n'ont même pas pris l'avenue des tramways ? Parce qu'au même moment, descendait en cortège le cortège de Bibus qui avait appelé à la grève et à rassemblement. Suite
en fait,
c'était l'enterrement d'un de leurs collègues qui s'était suicidé le week-end d'avant. Voilà.
Et qui avait mis en cause la direction de Bibus et le management RATP.
Voilà, le management RATP, là, sur Brest, qui commence à ressembler à du France Télécom.
Oui, parce qu'il y a eu une deuxième tentative de suicide.
Il y a eu une deuxième tentative dans la semaine. Il y avait déjà eu un suicide en 2020. Donc là, on compte, hein, en deux ans, on est déjà à deux suicides. Et alors, tentative, le mot est toujours bizarre, mais en tout cas, presque trois, on va dire. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, il y avait ce cortège qui descendait, la rue de Siam. Et donc là, ils étaient en voiture, en moto, en fourgon, en tout ce qu'ils avaient. Ils prenaient toute la rue de Siam. Et qu'est-ce que je constate pendant ce cortège qui descend, qui va dans l'autre sens, il descendait rue de Siam. Les manifestants dont on parlait avant, eux, étaient en train de remonter. Et en soutien aux ouvriers, ouvrières Bibus, se mettent à applaudir parce que le cortège Bibus descendait en klaxonnant, faisant du bruit. Les autres manifestants remontent et se mettent à applaudir le cortège pour les soutenir. Et pendant ce temps-là, ils continuaient de remonter la rue de Siam. Et là, alors les flics étaient toujours présents autour d'eux. Hein. Il y en avait devant, au loin.
Qui était déployé
rue de Lyon, il y avait beaucoup de flics et il y avait les voitures de flics au cul, quoi, de ce petit cortège. Et arrivé rue de Lyon, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, c'est pas ce qu'a piqué les flics, enfin sûrement un ordre. Hein. Je vois pas, c'était pas parce qu'il y a rien eu, hein, il y a eu aucune violence ni aucune provocation envers les flics à ce moment-là. Les flics ont décidé de couper le cortège Bibus en deux, donc déjà aucun respect pour ce cortège-là, pour pratiquer des interpellations. Et alors, la première qui tente, il chope une première personne en la désolidarisant du cortège, c'est-à-dire qu'il envoie 2-3 flics qui poussent cette première personne qui était en tête du cortège vers le convoi Bibus. Alors l'autre essaie, qu'est-ce que je fais au milieu des voitures, je bouge plus loin. Et là, 2 flics lui tombent dessus, le plaquent au sol. Évidemment, j'ai envie de dire, réaction des autres manifestants qui essayent d'aller récupérer le camarade. Et alors qu'il n'y a eu toujours aucun geste de violence envers les flics, ni rien, à part on récupère notre camarade. Là, ça déclenche une violence inouïe de la part des policiers qui se mettent à gazer, alors déjà au sol, les gens qui étaient au sol, à gazer, à matraquer dans tous les sens. Et à faire des interpellations assez violentes. Il y en a quand même une qui a été filmée par un journaliste du Télégramme, qui est sur leur site, hein, qu'on peut retrouver, où on voit l'interpellation quelque part la plus violente qu'il y a eu. Et on voit un manifestant se faire arracher du groupe de manifestants, arbitrairement. Personne n'a compris pourquoi ces gens-là ou d'autres. Et on le voit être emmené de force, il y a un gros déséquilibre sur 20 mètres, il finit par tomber par terre, un flic lui tombe par terre. Là, Le flic commence par lui mettre un premier coup de matraque au sol. Et alors là, carrément, il y a un autre collègue qui arrive de plus loin. Et lui, comme au bowling, quoi. Comme quand on lance sa boule, tac, on lance, on revient, après on va se rasseoir à son siège. Bah, il arrive. Et là, deuxième coup de matraque au sol. Et puis il repart comme si de rien n'était, quoi. Donc à l'arrivée, ça s'est fini par 3 interpellations. Un qui est sorti dans l'après-midi. Il y a eu 2 gardes à vue. Des gardes à vue auxquels on reproche c'est obstruction. Alors c'est pas obstruction, au départ rébellion. C'était obstruction et c'est rébellion, quoi.
C'est le nouveau truc quand t'as rien, en fait.
Donc voilà, et bah, en étant sur place, on a réussi à choper un peu de son d'après cette interpellation. Donc il y a des prises de parole qui sont faites là, enfin des prises de parole, des témoignages qui ont lieu juste après l'interpellation. Et il y en a aussi devant le commissariat. Il y a eu un rassemblement devant le commissariat en fin de journée pour aller réclamer la libération des camarades. Et voilà, on va vous passer cette prise de son et puis on en reparle derrière.
Alors, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un appel de l'AG de lutte à partir en cortège pour suivre la manif et que ça ne se cantonne pas au petit tour des organisations habituelles. On s'est retrouvé à une 50aine de personnes à descendre en direction du port. Alors a priori pour un tractage, il y a eu un petit moment de tension avec une Porsche qui a voulu passer. Du coup les flics se sont un peu très vite mis entre nous et la Porsche et puis ils ont contrôlé une personne. On est descendu jusqu'au rond-point de la rampe et là il y a eu une tentative de tractage et en fait ils étaient un peu sur les dents, du coup ils se sont très vite déployés et on est reparti tranquillement en direction de la fac. Et il y avait une forte présence de bagnoles, de flics qui nous suivaient. Et puis après on est remonté, on a croisé le cortège en hommage au chauffeur de Bibus qui s'est suicidé le week-end dernier, si je ne me trompe pas, qui partait vers le Verne. Et ils ont interrompu le cortège, essayé de choper une personne. Du coup, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de les arrêter. Ça a marché, mais là, ça a déclenché matraquage, gazage. Et là, ils ont arrêté 3 personnes, dont une pour vérification d'identité qui est sortie et 2 autres qui sont, a priori, retenus en garde à vue pour rébellion.
Et arrivé 3 quarts au deuxième, on s'est fait encercler en fait par les flics. De ce que j'ai vu, il y a un des camarades qui a commencé à se faire embarquer par les flics, donc d'autres camarades ont répondu en essayant de retirer le camarade qui commençait à se faire embarquer. Puis là c'est parti en live, c'est vrai que moi j'ai pas trop compris. Il y a eu gazage, sortie de matraque, tout le monde était un petit peu dispersé. Moi je me suis retrouvé contre un camion avec pas mal de camarades du cortège. Et en faisant le tour du camion, il y a 5 flics qui se sont mis autour de moi et qui m'ont plaqué sur un coin de commerce. Et là, en gros, ils m'ont demandé de décliner mon identité parce qu'ils avaient remarqué que j'avais fait quelques actions pendant la manif précédemment. Voilà, et donc c'est vrai que moi j'avais pas mon identité sur moi. Je savais pas trop ce que je voulais leur dire, ce que j'avais le droit de leur dire, et donc ils m'ont dit on vous embarque au poste. Donc après je suis resté attendre. J'ai compris que 2 autres camarades étaient menottés et on est resté assis sur le bord du commerce pendant 15-20 minutes le temps que tout redescende. Là il y avait les camarades autour qui protestaient contre tout ça, et après je suis monté dans le camion de flic et on est parti à Colbert. On est arrivé dans le couloir de la garde à vue. Ils nous ont menottés dans le couloir de la garde à vue. Et donc en fait l'objectif c'était en tout cas qu'on donne nos identités. A savoir que du coup moi j'ai compris plutôt rapidement qu'ils voulaient seulement mon identité, en me disant que si je la déclinais pas, ils me gardaient 4 heures, ils pouvaient me prendre en photo et récupérer mes empreintes. Donc j'ai décidé de donner mon identité et donc ils m'ont relâché. Les 2 autres camarades par contre, ils leur ont bien expliqué qu'ils étaient retenus en garde à vue 24 heures pour fait de rébellion. Sans plus de détails que ça. Voilà, donc un peu spécial, grosse ambiance chez les flics, ils étaient vraiment en train de se moquer de nous, très violents verbalement, psychologiquement, beaucoup de pression, et ils étaient vraiment, je sais pas, dans le couloir de la garde à vue, au moins 7-8 à se parler entre eux, à se moquer de nous, à se faire des réflexions entre eux, mais pour qu'on les entende, et à nous foutre la pression, quoi.
Ça, c'est moi qui rajoute, il y a même un flic pendant l'interpellation, on va dire, les interpellations, qui a traité un manifestant de clochard. Donc le niveau était quand même assez, assez bas, quoi. Enfin, voilà.
Complètement, là, ils étaient en train de dire, on nous traitait de gros branleurs, qu'on n'avait rien à. Enfin, ils posaient la question, qu'est-ce qu'on foutait dans la rue à faire notre petite rébellion, comme si je peux les citer. Moi, j'étais en train de me dire, mais en fait, qu'est-ce que vous, vous êtes en train de faire, enfin, genre.
Sauf que très rapidement, on a eu les flics très présents autour de la manif. Avec un peu une ambiance anxiogène, genre on était une trentaine pour très rapidement 3-4 fourgons de flics plus une BAC. Et à ce moment-là, arrivé à la rue du Lion, au niveau du carrefour, là où il y a le Crédit Agricole, la police va sur se dirige vers une personne qui était en tête, lui fait traverser la rue devant les voitures. Du coup, bah, la personne court pour aller de l'autre côté, sachant qu'il y a les voitures qui étaient en train de circuler, les voitures de Bibus. Et un autre policier lui saute dessus. Du coup, il y a quelques personnes qui essaient d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, en gros, je n'ai pas les détails, mais on s'est fait lacrymo, matraque, et puis contrôle d'identité pour pas mal de personnes. Fouille et interpellation de 3 personnes à ce moment-là. Et quand on leur a dit... qu'on leur a demandé des explications, c'était le rassemblement était interdit, nous parler de collège d'affiches et tout ça, sachant que c'est quand même assez disproportionné pour des petites affiches de coller.
Bonjour à tous, donc je suis le responsable de la CGT de Brest, il y a les camarades de la CGT qui sont là aussi en soutien, on va faire ce qu'on peut. Quoi qu'il arrive, c'était pas une manif sauvage, c'est la manif de l'interpro brestoise, vous étiez dedans. Et faut qu'on décide maintenant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va devant le commissariat, est-ce qu'on active nos réseaux, on se prépare pour demain. Nous, on va interpeller le sous-préfet parce que c'est l'État sur le coin. Donc moi, je laisse la parole au camarade qui est sorti, qui va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Il était complètement, il a eu la chance de sortir et puis s'il faut aller demander devant le commissariat qu'il sorte, on va y aller. Et il faut le voter, tout ce qui semble.
Dès le début, j'ai une remarque transphobe parce que moi j'étais avec ma capuche, avec mon masque, avec des chelons. Du coup, je pense qu'ils m'ont tout de suite dit « Ah, c'est encore un Yel celui-là » parce qu'ils n'arrivaient pas, je pense, à déterminer mon genre ou j'en sais rien. Et je me suis retrouvé assis au bord du commerce avec les deux autres camarades qui visiblement avaient été mis à terre et plein de lacrymos sur le visage. J'étais embarqué dans le camion, on est allé tout de suite à Colbert et là on s'est retrouvé dans le couloir de la garde à vue.
Bon, beaucoup de témoignages concordants, hein, finalement, on entend quasiment la même histoire tout le long. Hein. Ce qui était aussi impressionnant, c'est que ça s'est passé donc, en plein après-midi le jeudi, hein, rue de Siam, donc il y avait ce cortège Bibus, et il y avait des gens qui faisaient leurs courses. Et à la tête des gens, personne n'a compris ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que les flics, on a vu des flics agresser un groupe de personnes sans qu'il y ait rien eu avant, en fait, quoi.
Ouais, qui marchaient dans la rue, quoi.
Qui marchaient dans la rue, quoi. Quand il y a eu la fin des interpellations, on a entendu des vertes et des pas mûres, parce qu'au moment où ils faisaient des contrôles d'identité après, ils ont essayé de choper un max d'identité. Il y avait une conversation qui s'est enclenchée entre un de ces flics et quelques personnes de ce cortège. Et on a quand même pu entendre des choses, la question « Mais vous, qu'est-ce que vous faites ?» et tout. C'est quoi ? C'est démesuré complètement. Le flic répond quand même « Mais c'est de la pédagogie, c'était de la violence légitime. »
C'est pour vous apprendre la haine.
Voilà, la pédagogie à coups de matraque, de gaz. Alors moi, j'ai vu des coups de gazage à bout portant, hein, un plein œil à genre 5-10 cm du visage, quoi. Un truc pas du tout dangereux pour les yeux des gens. Alors on n'a pas encore eu le droit au tir de LBD à Brest, même s'il y en avait eu à Ponta, on en avait parlé sur des interventions policières. Mais c'était hallucinant, quoi. C'était
Les flics en roue libre, voilà. Tu appelles ça comme ça, hein. C'est ouais. Ils se sentent libérés de toute manière de tout ce que de toutes les contraintes. Il y aura rien de toute manière qui leur sera reproché, puisqu'il y en aura à dire qu'ils ont cassé un mouvement de contestation. Ouais, voilà, c'est... ils vont recevoir ces mecs-là, ils vont recevoir une tape sur l'épaule et on leur dira que t'as bien fait ton boulot. Bon, en même temps, ils font bien leur boulot parce que c'est une bonne façon d'inculquer la haine du flic, hein, quelque part.
Ah bah là, je pense que leur but, c'est, alors, si on n'avait jamais vu ça, on s'est demandé pourquoi ils étaient montés d'un cran comme ça. Bon, bah, je pense que c'est pour casser toute manifestation naissante, toute parole qui serait contradictoire au gouvernement. Hein. Puis bon, avec la montée des flics, là, les 15 milliards en plus, on voit bien dans quel sens va ce gouvernement. Mais
après, tu vois, pendant la manif, même la première le premier cortège de l'intersyndical, il y a pas mal de gens qui m'ont fait aussi la réflexion qu'il y avait beaucoup de flics.
Ouais.
Et qu'il y en avait plus que d'habitude. Ouais, et c'est vrai que moi, quand je suis reparti de la manif, de mon côté, en fait, on a dû se croiser, rue de Siam.
C'est l'autre sens.
J'étais dans l'autre sens, mais j'ai cru voir hein, le mouvement, tu vois, de loin. Mais moi, tu vois, j'étais accompagné, j'étais pas tout seul. Donc, je me dis que au pire, vu de la façon dont ils ont agi, ils auraient pu gazer des gosses. Enfin, c'était.
Ah bah, ils ont réussi à se gazer eux-mêmes. Alors, au passage, tellement ça a arrosé dans tous les sens.
Des génies, on va dire. Mais moi, je me suis fait un peu la réflexion en descendant de Jaurès, enfin de Liberté. Quand je suis passé, parce que je suis passé à peu près en même temps que le cortège de la CFDT, là, de Bibus, là. Ouais. Et je me suis fait la réflexion en passant qu'il y avait quand même un gros paquet de CRS dans tous les sens, en armure intégrale, et beaucoup de caisses de baqueux.
Ouais, les baqueux tournaient à fond.
Ils étaient tous à fond, quoi. Ils avaient l'air bien tendus. Quoi.
Donc, ouais, moi, je pense que déjà, dès le début de la journée, il y avait eu des consignes, il y avait quelque chose.
Il y avait plusieurs mouvements, donc est-ce qu'ils avaient peur qu'il y ait une convergence je pense pas qu'il y aurait une convergence des mouvements, mais tu sais, entre le mouvement lycéen le matin, le mouvement de l'Interpro à midi, plus le mouvement de la CFDT Bibus, qui en plus, on rappelle, c'était un cortège funéraire, hein, en fait, hein,
oui,
parce qu'ils accompagnaient leurs camarades morts au Verne.
C'était l'après-midi, c'était les funérailles.
Ouais. C'était ses funérailles, hein, donc... il y avait des symboliques importantes derrière tout ça. Et moi, j'ai senti qu'ils étaient quand même un peu sur le... Au départ de la manif, tu vois, il y avait déjà cette réflexion-là de se dire qu'il y avait plus de caisses de flics que d'habitude, alors qu'on était 600.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Cassés.
600 à 800. Ouais.
Donc, il y avait déjà beaucoup moins de monde que sur les premières manifs qu'il y avait eu. Et on a senti qu'il y avait un peu de la tension au niveau des flics. De toute façon, là, ce que tu vois là, c'est le schéma classique de fracassage... on pose pas de questions, les intimidations en garde à vue, bah, c'est monnaie courante. Hein. De toute façon, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent.
Exactement.
Donc quand tu vois les témoignages, la technique classique du flic, hein, on se met à plusieurs et puis on intimide. Hein. Et puis ils savent faire, hein. De toute façon, ils savent intimider les gens, ils savent vous couper. Parce que bien sûr, normalement, ils doivent te dire tes droits aussi, hein, ce qu'ils te disent pas forcément en garde à vue. Hein. Ils vont pas te dire ce que tu as droit, hein. Ils vont plutôt essayer de te pousser à de toi-même donner plus que ce que tu devrais donner. Quoi. Ouais.
Bon, en tout cas, on sent bien que là, c'est monté d'un cran. On va être attentif à ce qui se passera aux prochaines journées de mobilisation, voir si ça se répète. Est-ce que c'était un jour à part ou est-ce que c'est une politique locale maintenant de ça y est, c'est parti, hein, ça se faisait dans d'autres villes. Pourquoi pas à Brest se mettre à taper sur tout le monde gratuitement. Mais en tout cas, oui, là, il y a quand même eu des violences policières. Il y a des coups de matraque au sol qui sont tombés, ça a été filmé. C'était tellement violent qu'on le voit, hein, chose qui est inhabituelle sur des cortèges hors cortège intersyndical, c'est que là, la CGT du local et du Finistère soutient ces manifestants-là. Là. Hein, on l'entend un moment dans la prise de parole, hein, qui dit qu'ils vont interpeller le sous-préfet quand même pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, depuis, on a reçu un communiqué de presse destiné donc à la presse et à la préfecture de la part de l'Union départementale de la CGT 29. Je vais vous le lire, il est assez intéressant quand même de voir leur prise de position. Moi j'ai envie de dire, toi, en réponse, bah, les flics ont voulu diviser les gens. Peut-être que le but c'était de faire passer ces manifestants pour des voyous, des je sais pas quoi, pour les monter contre les autres. Et j'ai l'impression que ça va faire l'effet inverse. Bon, je vous lis ce communiqué. Donc, l'Union départementale des syndicats CGT du Finistère dénonce toutes les formes de violence telles qu'elles soient. Bon, toutes les formes de violence, on pourrait quand même. Moi, ça me gêne un peu cette première phrase, même si bon, parce que bon, j'imagine que dedans, casser une vitrine, c'est une forme de violence. Mais bon, ça.
Après, t'es obligé de mettre une phrase.
Voilà, bon, c'est l'intro. Et après, quand même, les violences policières ne font pas exception. Donc là, on y vient. Ce jeudi 10 novembre, des manifestations intersyndicales CGT, FSU, Solidaire, Union Pirate et Organisation de lycéens se sont tenues dans ce département. À Brest, en fin de cortège, des jeunes manifestants ont connu l'inacceptable. Encerclés, violentés et méprisés par une police déchaînée, ces jeunes sont victimes de l'insupportable. La CGT a pu constater le calme de la manifestation, comme elle a soutenu la colère de ces jeunes qui souffrent du mépris que les politiques leur assènent. Oubliés dans les décisions politiques, et elles sont aussi les héritiers et héritières d'une situation économique et écologique qui justifie leur rejet du capitalisme. Légitimes dans leur colère pacifiste, la police devait les protéger. Elle aura fait l'inverse en les frappant sans retenue. L'Union départementale soutient les trois jeunes violemment interpellés par les forces de police dont l'exemplarité n'aura pas été au rendez-vous. Ces mêmes fonctionnaires portent aussi la responsabilité du désordre occasionné par une décision violente inutile dans un cadre que l'intersyndicale maîtrisait. Voilà, et c'est signé de l'Union départementale, du secrétaire général.
Non, c'est bien.
Donc c'est bien, affaire à suivre. Hein. Je pense qu'on va voir comment la défense se met en place, hein, des camarades qui ont été mis en garde à vue et de voir ce qui peut en suivre. Quoi. Mais...
Ouais, moi j'aimerais bien voir un communiqué de la sous-préfecture ou du préfet, voir eux leur position, parce qu'en attendant, on a quand même le Télégramme, qui est un journal plutôt pro-gouvernement et flics, qui déjà dans son article... Ne défend pas les flics, ce qui est assez surprenant. Ouais. C'était flou. Enfin, ouais. Tu vois, pour un article du Télégramme, je me suis dit, c'est bizarre, ils disent pas que les flics ont été exemplaires. Et on n'a pas de com' là actuellement de la préfecture du Finistère.
Non, on a juste eu une... Enfin, c'est juste le commissaire, le grand commissaire général de Colbert, enfin de Brest, là, qui a... Parce que ce communiqué a été retransmis dans un article du Télégramme. Mais à la fin, quand même, il donne une réponse à M. Waro, qui est ce commissaire local, qui, lui, ne voit pas de problème. Hein. C'était, pour lui, une manifestation interdite. Alors, on le précise, ce n'était pas une manifestation interdite. Et voilà, qui parle de qu'en fait, ils ont été pris à partie au moment de l'interpellation. C'est ce qui les justifie, justifie les violences comme ça. Ils ont été pris à partie. Alors, ça veut dire quoi, pris à partie? Parce que la seule chose qui a eu lieu, et on l'entend dans tous ces témoignages, c'est que les camarades ont essayé d'extraire ceux qui étaient en train d'être interpellés. Il n'y a pas eu de coups portés aux flics, il n'y a pas eu de projectiles lancés sur les flics. Donc, c'est quoi le pris à partie, quoi?
Ouais, ils se sont sentis en danger.
Oui, oui.
Mais c'est le pris à partie, ça te justifie, si tu veux, le... Il se dédouane, tu vois. Il dit, nous, on a juste fait des interpellations qui vont bien. Mmh. C'est-à-dire, on vous interpelle pour rien dans la rue, puisque au final, t'as pas de flagrant délit constaté, t'as rien.
Ah bah, à ce moment-là, non, le flagrant délit, s'il y en avait un, c'était peut-être avant, je sais pas, d'une affiche collée sur...
Ouais, t'as dégradé un panneau, c'est vachement grave.
Ouais, t'as mis un coup de colle, là, ça va pas, quoi.
Enfin bon, bref.
Donc, non, mais c'est complètement démesuré, de toute façon, d'intervenir comme ça, quoi.
Ouais, mais eux, ça va bien se passer pour eux. Hein. Ils ont une médaille.
Oui, moi j'ai entendu aussi, quand le flic disait que c'était de la pédagogie et que leur violence était légitime, à un moment, ce même flic dit, vous avez qu'à vous plaindre à l'IGPN. Et là, t'entends les manifestants, oui, c'est ça. Et puis dans 2 ans, vous serez peut-être condamné à une amende de 50 euros, vous ne payerez pas, il faudra encore attendre un lundi. Et pendant ce temps-là, les flics rigolaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sentent totale impunité. Ils sont hors la loi, ces gens-là, quoi. Complètement, quoi. Bon, bref. Donc voilà, affaire à suivre. On va voir comment ça va être traité. Bon, sans surprise, je pense que ce seront ceux qui étaient gardés à vue, qui ont rébellion en plainte contre eux, qui risquent de morfler le plus. On vous tiendra au courant des nouvelles dès qu'on en a d'autres.
Ouais, quoi. À voir comment ce sera poursuivi, on va dire. Quoi.
Voilà. Bon, moi je vais conclure cette petite partie s'informer autrement. La semaine dernière, je vous avais parlé un peu de l'Iran. J'avais été totalement brouillon, donc je vais essayer de me reprendre aujourd'hui, d'autant qu'il y a eu quelques nouvelles. Donc en gros, je vous disais que la semaine dernière, bon, c'est toujours hein, suite manifestation qui dure depuis maintenant, ça doit faire 2 mois en Iran.
Ouais, mais on n'en parle plus dans les médias dominants parce que c'est plus porteur.
Ouais. Et où il y a une répression de dingue hein, qui est mise en place. On peut rappeler, entre autres, que l'association Iran Human Rights qui vient de mettre à jour son bilan de la répression. On en est quasiment à 326 morts, 43 enfants, 25 femmes. Et l'ONG précise au passage que c'est le minimum, hein, parce qu'ils n'ont pas encore pris en compte un grand nombre de morts rapportés. Ils sont en train de vérifier, donc c'est des chiffres qui peuvent grimper encore du jour au lendemain. Et la semaine dernière, ce que je voulais vous dire et que je n'avais pas réussi à le dire, c'est qu'il y avait une grande majorité des 290 députés iraniens qui avaient réclamé que la justice iranienne applique une sévère répression au mouvement de la contestation en usant de la loi du talion contre les ennemis de Dieu. La loi du talion, hein, rien que ça.
Ah non, ils sont arrivés au stade de la loi du talion, voilà, quoi, œil pour œil, dent pour dent. Quoi.
Voilà, c'est celle-là, hein, je rappelle, la loi du talion, sur laquelle je n'étais pas du tout à fond la semaine dernière, qui est quand même une des lois les plus anciennes, qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine.
C'est ça.
Donc voilà, représenté symboliquement par l'expression œil, dent pour dent. Quoi. Donc c'est, ça caractérise un état intermédiaire de la justice pénale entre le système de la vendetta et le recours à un juge comme tiers impartial et désintéressé. Donc voilà, donc les députés qui appelaient à appliquer la loi du talion, eh ben on le craignait, hein, parce qu'il y a quand même un paquet de monde qui ont été arrêtés, donc on ne sait pas sur qui ça peut tomber. Eh ben, cette semaine, là, il y a un premier manifestant qui vient d'être condamné à mort. C'est quoi l'effet reproché pour mériter la mort? Parce que œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire qu'il aurait dû tuer quelqu'un.
Ouais, dans la logique, c'est ça, ouais.
Ce serait ça. Là, il est coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental, de troubles à l'ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale. Et ben voilà, donc ça mérite la mort en Iran maintenant. Il y en a 5 autres qui viennent d'être condamnés à des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour rassemblement et conspiration en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale. Donc j'ai envie de dire que la répression n'est pas terminée en Iran, on va pas du tout vers un apaisement, hein, ça s'empire. Et j'ai peur que ce premier condamné à mort ne soit que le premier sur une longue liste à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire à part continuer de dénoncer ce qui s'y passe, que ça parle de plus en plus, mais en même temps, nous d'ici on peut pas faire grand-chose de plus, quoi, à part que.
Ouais, il y a eu un, on en a pas trop parlé, mais il y a eu un super interview fleuve de merde sur France Inter d'Emmanuel Macron l'autre jour là-dessus, je l'ai écouté brièvement parce que j'étais dans ma voiture pendant ce temps-là, où Macron justement parlait depuis la COP là en Égypte et disait qu'il avait reçu des féministes et qu'il soutenait leur combat. Bon, à côté de ça, il fait quand même des petites tapes dans le dos au dictateur en chef pour lui dire bon, achète du matos, quoi, ce serait bien. Hein. Ouais. Et donc, on est quand même dans un monde décorrélé, hein, puisque il n'y a plus. Dans les médias, de toute façon, on n'en parle plus. Tu vois bien que ça ne fait plus recette. Donc
ouais, on
arrive plus
dans les médias télévisuels et radiophoniques, on n'entend rien. Aller chercher des articles sur le net. Alors. Moi qui lis Le Monde, désolé, je commence par là le matin. Ils ont quand même, dans leurs actualités, il y a quand même un petit bouton Iran qui regroupe un peu les infos qu'ils arrivent à avoir. Mais on s'aperçoit que pour un truc de cette ampleur, de cette gravité, on n'a pas grand-chose. Quoi.
Non, bah ça a fait au début, ils en ont un peu parlé parce que ça faisait bien. Et puis on avait les révolutions, ils vont peut-être se rebeller, là c'est la fin du régime des mollahs et tout ça, et puis au final comme on voit que la situation est réprimée d'une force inouïe, y a peu de chances qu'à mon avis que les mollahs soient retournés, j'y crois pas trop, j'y mettrai pas ma main au feu comme on dit.
Il y a que le peuple qui peut arriver à faire tomber tout ça. Quoi.
Ouais, mais comme une partie du peuple les soutient pour leurs propres avantages, ils vont surtout pas se retourner contre ça. Non. Et puis il y a pas le soutien, tu vois, il y a pas de condamnation unanime
internationale
quoi. Ouais. Y a pas,
ça c'est demandé hein, par les mouvements de soutien aux Iraniens, aux Iraniennes, mais
tu sens bien qu'il y a pas l'envie d'aller voir ce qui se passe en Iran quoi.
Mm-hmm. Donc bon, bah voilà, hein, les organisations des droits de l'homme rappellent, parce qu'ils font état de 15 000 arrestations hein, depuis ces manifestations. Alors, des chiffres démentis par les autorités iraniennes. Hein, d'après la justice iranienne, c'est que 2 000. Bon, bah sur 15 000, c'est inquiétant. Hein, s'ils commencent à faire des condamnations à mort, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait plus. Quoi. C'est...
Oui, et puis on peut imaginer que les gens qui se sont fait arrêter, c'était des gens qui sont visés aussi. Quoi. C'est pas.
Oui.
Il doit y avoir des gens qui manifestent, mais il y a aussi des purges politiques en cours. Quoi.
Ah, bah oui, de toute façon, il y a eu des purges, j'ai vu au niveau des journalistes, des écrivains, des footballeurs, enfin, tous ceux qui condamnaient la violence de l'État. Quoi. Donc voilà, donc c'était pour histoire d'être un peu plus précis sur l'Iran, toujours un sujet qu'on suit, hein, de loin, malheureusement, mais dès qu'on a des news, on vous les transmettra. Voilà. On n'a rien d'autre à rajouter dans cette partie-là.
Maintenant, il y a tellement de sujets.
Il y a tellement de sujets.
On n'a toujours pas parlé du fascisme en Italie. Tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, on pourra en reparler avec ce qui s'est passé avec les derniers migrants.
Ah oui.
Ça, c'est vrai qu'on n'a pas abordé. Mais alors, l'État français qui veut faire aussi la leçon à l'État italien, c'était pas mal.
Oui. Ouais, ouais, ouais.
Bon, finalement, on va le prendre, le bateau. Ouais, par contre, on ne va pas garder tous les migrants. Hein. Non, il y en a qu'on ne veut pas. Et puis des migrants qui ont été accueillis en France royalement, hein, c'est-à-dire on les a mis dans une prison, donc hors état de droit, quoi. Donc ils peuvent pas sortir, ils sont emprisonnés, pas de papier, rien, on ne sait pas comment ça va finir, donc affaire à suivre aussi, on est bien. Bah écoute, moi je te propose qu'on fasse une dernière pause musicale.
Ça me va bien.
Et après on abordera l'agenda.
Yeah.
Hein, histoire de peut-être avoir des choses un peu plus réjouissantes pour cette semaine. Donc, qu'est-ce que tu nous as sélectionné, mon Pedro? Alors, je crois qu'on va commencer par du Krav Boka.
Oui.
Ça, c'est du rap?
Ouais, du rap.
Du rap.
Dans mes souvenirs, c'est du rap.
C'est du rap, avec un titre qui s'appelle Vertigo. Et on finira avec Algal, qui nous fait une reprise de Toxicity.
Donc... Yes, lui, c'est un druide.
C'est un druide, ça. Ouais. Ils disent de la chanson druidique.
C'est ça, c'est de la chanson druidique.
Et bien, les petites pauses musicales et on revient juste après.
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εκένωση άλλων δύο κτηρίων που τελούσαν υποκατάληψη, κατάληψη, κατάληψη.
Militants sont considérés comme susceptibles de participer à des contestations violentes. C'est pour cela qu'ils sont sous surveillance. Leur communication et leurs déplacements sur les zones de manifestation sont attentivement scrutés.
Αντανακλάσεις από κόκκινο και μπλε στις γειτονιές μας. Το κράτος ετοιμάζει τις φυλές μας. Οι βάτες στις πλατείες, αστέγια και στις σχολές μας εγκαινώνουν. Αλλά θα τους τυχιώνουν οι γραβιές μας. Παιδιά της κρίσης, με πόνο στα πόδια και καταθλίψεις. Με ξώσεις, κλητεύσεις και απολύσεις. Αφράγκοι με συνειδήσεις που φτύνουν τις παρετήσεις και τη φόλα. Οι πρώτες σταγόνες από την πόρα.
J'suis parti voler de la pierre de prestige. Toute la nuit zone et en avoir le vertige. Incendie criminel d'après les expertises. La parole, leur tourelle ne seront que vestiges. Pour faire simple et concis, on emmerde les consignes. La justice les combine, les légendes les comptines. La terre brûlée sous grenade défensive. On ira hurler du sang plein les gencives.
Είμαστε όλοι μας λαθρέοι και παραβάτες που προσπαθούν να πάρουν ανάσα απ' τις χαραμάδες. Γι' αυτό ανθίζουν οι αντιστάσεις απέναντι στους φωνιάδες. Γι' αυτό ακόμα αντιστεκόμαστε απέναντι στους δελτάδες. Οι φίλοι μου έχουν για πατρίδα τους τα ζόρια. Ζωγραφίσανε το μέλλον με στάχτες από τη Μόρια. Δαμασκός, Αιγαίο, Χότσποτ, Αθήνα, κέντρο Βικτόρια. Κουβαλάμε ιστορίες και στα πόδια μας τριβόλια.
Au pied de la Garonne, dans nos pinèdes de ciment, je vois des âmes qui marronnent et des regards qui dérivent en silence. Des étudiants qui font la cour à leur dealer pendant des gamins de 12 ans s'inquiètent pour leur mère en pleurs. J'ai vu la direction faire ses choix, des employés perdant l'emploi. Le dirigeant touche un bonus, des salariés passent à la rue. J'ai vu des pères de famille craquer, partir en vrille. Des anciens profiter de leur statut pour étouffer les cris.
Οι αστυνομικές δυνάμεις, επειδή ήταν πολλές, τους περικύκλωσαν. Ξέσπασε η συμπλοκή με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων από τον εξουσιαστικό χώρο.
J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes tard le soir. J'ai vu ce qui le traque dans les rôles, le craque dans les couloirs. J'ai vu des promets, des camés, des poteaux pétés, bloqués par la queue. Les pas d'eau, pas les fantasmes, des palais de cachets. J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes tard le soir. J'ai vu ce qui le traque dans les rôles, le craque dans les couloirs. J'ai vu des promets, des camés, des poteaux pétés, bloqués par la queue. Les pas d'eau, pas les fantasmes, des palais de cachets.
This is
Ζούσαμε το μπλε της θάλασσας στο πράσινο του κέντρου. Πιστολές και από τα μπατζικά του κέντρου. Μας παίρνουν από πίσω, ακούν τα κινητά μας. Παίρνουν τα χαρτιά μας, τους τρομάζουν τα χαμογελά μας. Ζούσαμε το μπλε της θάλασσας στο πράσινο του κέντρου. Πιστολές και από τα μπατζικά του κέντρου. Μας παίρνουν από πίσω, ακούν τα κινητά μας. Μα δεν πιάνουν ούτε λέξη από όσα λένε τα δάκρυά μας.
Territoire sans chef, sans hiérarchie, c'est même l'ADN hein, de ces mouvements radicaux. C'est que l'organisation de certains groupes deviendrait quasi professionnelle.